Le service Orange Monnaie, réception de transfert d'argent depuis la France, vous propose appel sur l'actualité. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Appelez-nous, exprimez-vous, bienvenue si vous nous rejoignez. L'antenne vous appartient dans 30 minutes. Nous lancerons le débat sur les élections législatives du 28 avril au Bénin avec ce scénario qui semble se dégager pour la première fois depuis 30 ans, depuis donc l'instauration du multipartisme. Aucun candidat de l'opposition n'est autorisé à prendre part au scrutin. La commission électorale a estimé que leur dossier ne remplissait pas les conditions requises par le nouveau code électoral. Le président de la République a lui-même reconnu qu'il était mal à l'aise avec cette décision. Il a donc demandé qu'une solution soit trouvée, mais les négociations n'ont finalement rien donné. La démocratie béninoise est-elle menacée? Nous lancerons le débat dans une demi-heure. Vous continuez à nous appeler, évidemment. Dites-nous si à 3 semaines du scrutin, un compromis est encore possible. 33 9 693 693 70 et continuez à poster vos commentaires sur la page Facebook de l'émission. J'en lirai quelques-uns tout à l'heure, évidemment, pour alimenter la réflexion, mais on a tellement de commentaires postés, notamment sur le compte WhatsApp de l'émission, que bon, voilà, je ne pourrai pas tous les citer évidemment à l'antenne. J'en profite d'ailleurs pour vous redonner le numéro WhatsApp 33 6 89 28 53 64. Un numéro non pas pour nous appeler, mais simplement pour nous envoyer vos commentaires. D'abord donc, vos questions sur l'actualité, vous nous appelez évidemment pour nous interroger, pour mieux comprendre tous les sujets que nous traitons dans nos différents journaux. Bonjour Justin. Bonjour.
Bonjour à tous les auditeurs de la RFI.
Vous nous appelez de Lubumbashi, en République démocratique du Congo, et vous avez des questions sur l'Ukraine, où un humoriste est en position de force pour remporter l'élection présidentielle.
Bien sûr, Juan. Les élections ont eu lieu ce week-end en Ukraine. Le premier résultat annonce pour le second tour un duel entre Volodymyr Zelensky, comédien, oui, à l'ancien président Petro Porochenko. Mmh. Le président sortant n'a pas obtenu beaucoup de votes. On parle de désaveu. Qu'est-ce qu'on lui reproche?
Alors c'est vrai que le président sortant, Petro Porochenko, n'a recueilli que 16% des suffrages. Il arrive deuxième derrière ce comédien Volodymyr Zelensky, qui est largement arrivé en tête du premier tour avec 30% des voix. Bonjour Anastasia Becchio.
Bonjour.
Vous rentrez d'Ukraine, vous avez suivi pour RFI le premier tour de ce scrutin présidentiel. C'est clairement un désaveu pour le président sortant. Comment expliquer une telle défiance des électeurs vis-à-vis de Porochenko?
Petro Porochenko souffre tout d'abord d'un phénomène de rejet d'une élite qui est jugée corrompue. On lui reproche de ne pas avoir lutté plus activement contre la corruption. Or, c'est justement ce que demandait le soulèvement de Maïdan il y a 5 ans. Lui-même a été de près ou de loin mouillé dans plusieurs affaires. Plus généralement, il représente ce système oligarchique dont l'Ukraine n'arrive pas à se défaire. En arrivant à la présidence, il avait promis de renoncer à ses actifs, mais il ne l'a jamais fait. Et ses chocolateries ou ses chantiers navals ont continué de prospérer. L'an dernier, par exemple, il a gagné 95 fois plus que l'année précédente. Rien ne dit qu'il a usé de sa position de président pour interférer directement dans ses affaires, que l'enrichissement est illégal, mais c'est l'une des choses, en tout cas, que lui reprochent les électeurs.
Oui, des électeurs qui lui reprochent, évidemment, d'autant que la situation économique n'est pas bonne.
Oui, le niveau de vie s'est détérioré. Le prix du gaz, par exemple, a fortement augmenté, ce qui pèse évidemment sur les ménages. Autre reproche qu'on lui fait, c'est que la guerre à l'Est s'enlise, alors qu'il avait promis d'y mettre fin. Elle a déjà fait 13 000 morts, il y a 1,5 million de déplacés. Il y a aussi des problèmes d'incompétence de certains officiers, de corruption au sein de l'armée. Ce qui est intéressant, c'est que dans les garnisons, on a voté surtout pour Zelensky. Ce qui peut, à première vue, paraître contradictoire, parce que Zelensky n'a pas vraiment dévoilé de plan pour mettre fin au conflit. Il reste très vague, d'ailleurs, sur beaucoup de points de son programme. Alors que Porochenko se pose en véritable chef de guerre. Il est souvent allé sur le front. Il se présente comme le seul rempart contre ce qu'il nomme l'agression russe. Et puis, il y a d'autres paradoxes. Par exemple, les Ukrainiens, dans leur majorité, soutiennent la politique étrangère de Petro Porochenko. Il plébiscite l'intégration européenne ou le rapprochement avec l'OTAN. Or, c'est sous sa présidence que l'Ukraine a conclu l'accord d'association et obtenu un régime sans visa avec l'UE. Mais ça n'a pas été suffisant, enfin, du moins pour ce premier tour.
Voilà, il arrive donc deuxième, certes, mais loin derrière Volodymyr Zelensky, humoriste, comédien. Vous avez une autre question, Justin ?
Oui, j'ai une autre préoccupation. Volodymyr Zelensky est arrivé premier. Qu'est-ce qui explique ce succès alors qu'il est en politique depuis peu ?
Ah, il est même novice en politique, Anastasia Becchio.
Oui, eh bien en fait il incarne la nouveauté, la jeunesse, il casse les standards de la communication politique traditionnelle. Certains ont voté pour lui simplement pour exprimer un ras-le-bol, c'est un vote contestataire. D'autres parce qu'ils le considèrent comme le moindre des mots. Alors vous le disiez, effectivement c'est un novice en politique, mais c'est un visage que toute l'Ukraine connaît depuis des années. Il a débuté dans un jeu télévisé humoristique très populaire encore du temps de l'URSS. Il a fondé le studio Quartier 95 qui produit des spectacles humoristiques. Et puis il incarne dans la série Le Serviteur du Peuple un professeur d'histoire devenu président par hasard, un président qui est très honnête et qui tente de s'attaquer à la corruption.
Oui, une série aux allures de films de campagne.
Oui, ça y ressemble. Et d'ailleurs, la troisième saison est sortie dans les tout derniers jours de la campagne. Ces shows télévisés, par ailleurs, étaient diffusés en boucle, y compris la veille de l'élection, jour où toute campagne, en principe, est généralement interdite. Il n'a quasiment pas fait campagne au sens propre du terme. Il n'a pas participé à des débats. Il a beaucoup utilisé les réseaux sociaux. Il a donné des spectacles comiques avec sa troupe de stand-up. Et il est resté très vague sur tout un tas de sujets.
Est-ce que son inexpérience ne fait pas peur, tout de même ?
Alors, ses électeurs espèrent qu'il sera s'entourer de gens compétents. Il y a évidemment des doutes sur son degré d'indépendance, sur ses aptitudes à incarner la fonction présidentielle. Pour certains observateurs, Zelensky est en fait une sorte de coquille vide dans laquelle chaque électeur peut projeter sa propre vision des choses. Reste maintenant à savoir si une majorité d'Ukrainiens seront prêts le 21 avril à faire ce saut dans l'inconnu.
21 avril, deuxième tour de l'élection présidentielle en Ukraine. Justin, a-t-on répondu à vos questions ?
Oui, Juan, merci beaucoup.
Bonne journée alors et merci de votre fidélité. Continuez à nous écouter à Lubumbashi. À bientôt, Anastasia Becchio du service international de RFI. 10h18 ici à Paris, Franck Alexandre, bienvenue.
Bonjour.
Les
Bonjour.
Auditeurs vous connaissent, vous suivez pour RFI les affaires judiciaires et nous avons des questions concernant cette interminable affaire du Crédit Lyonnais, le procès Bernard Tapie.
Oui, un feuilleton.
Un feuilleton, oui, c'est peu de le dire. Bonjour Seydou.
Oui, bonjour, Juan Gomez.
Bienvenue, merci de nous appeler de Côte d'Ivoire. Vous êtes à Boaké.
Oui, tout à fait.
On vous écoute.
Bien, donc l'affaire Tapie a débuté dans les années 90. Mmh. Et le lundi dernier, le ministère public a requis la peine de 5 ans d'emprisonnement ferme contre Bernard Tapie. Vu son état de santé, le juge pourrait-il être indulgent pour ne pas le condamner ?
Alors, c'est une bonne question, Franck Alexandre. Effectivement, Bernard Tapie a 76 ans, il souffre d'un double cancer. Peut-on imaginer que le juge soit indulgent, que le juge prenne en compte son état de santé ?
Alors, ira-t-il en prison ? C'est une question à 403 millions d'euros, ça c'est d'où le ministère public, vous savez, n'est pas dupe. Et d'ailleurs, les procureurs l'ont souligné lors de leur réquisition. Cette peine ne sera certainement jamais mise à exécution. Vous le savez, vous venez de le dire, Juan, Bernard Tapie souffre d'un cancer à l'estomac, il est très affaibli. Et si d'aventure le tribunal le condamnait à une peine de prison ferme, eh bien, il obtiendrait, via un juge d'application des peines, un aménagement qui lui éviterait l'incarcération. Tout cela est prévu par le code pénal. Même chose pour Pierre Estoux, vous savez, le magistrat qui aurait manipulé le tribunal arbitral, permettant à l'ex-patron de l'OM d'être généreusement indemnisé. Pierre Estoux, 90 ans, il n'a pas assisté aux audiences en raison de problèmes cardiaques. 3 ans ferme ont été requis contre lui. Eh bien, s'il était condamné, peu de chance, là encore, qu'il aille derrière les barreaux.
Oui, le jugement, en tout cas, n'est pas attendu avant plusieurs semaines. Vous avez d'autres questions, Seydou ?
Oui, donc, dans ce cas, alors, est-ce que Bernard Tapie peut concrètement rembourser les 403 millions d'euros, comme il a été condamné à le faire en 2015.
Ah, bonne question. Est-ce qu'il a les moyens? Est-ce qu'il a encore en poche ces 403 millions d'euros, Franck Alexandre?
Vous savez, à la veille de l'annulation de l'arbitrage par la Cour d'appel de Paris, c'était en 2015, eh bien, l'ancien patron de l'OM, Bernard Tapie, actuel propriétaire de la Provence, avait placé toutes ses sociétés en procédure de sauvegarde, rendant ainsi, c'est magique, leurs actifs inaccessibles créanciers. La question de la capacité de remboursement de Bernard Tapie est vraiment posée. Hein. L'homme d'affaires s'appuie en effet sur des biens dont il ne dispose parfois plus, car ils ont été saisis par les juges. C'est le cas en particulier de sa somptueuse propriété à Ramatuel, près de Saint-Tropez, estimée à plus de 50 millions d'euros. Au total, environ 90 millions d'euros sont aujourd'hui entre les mains de la justice. Pour le reste, il n'est pas certain que le Trésor public parvienne à récupérer son dû.
Affaire à suivre donc.
Absolument.
Le feuilleton est loin d'être terminé. Franck Alexandre, merci beaucoup d'être venu répondre à Seydou, à qui nous souhaitons une belle journée à Boisquet, où il est 8h21. Appelez-nous, vos questions nous intéressent. 33 9 693 693 70. Bonjour Henri.
Bonjour Anne, vous allez bien?
Très très bien. Je vous avais promis l'autre jour, vous étiez au standard, vous avez patienté pendant un bon moment, finalement on n'avait pas eu le temps de vous prendre à l'antenne. Je vous avais promis qu'on vous rappellerait d'ici la fin de la semaine, c'est chose faite. Vous êtes à Pointe-Noire et vous avez des questions concernant le glyphosate, cet herbicide qui est très controversé et qui est incontestablement l'herbicide le plus utilisé dans le monde.
Oui, un tribunal fédéral de San Francisco a condamné Monsanto à payer 80 millions de dollars à un retraité qui a contracté un cancer après avoir utilisé le Roundup pendant 30 ans. Mm-hmm. Quelles sont les conséquences économiques suite à ce deuxième procès perdu par la société Bayer, propriétaire de Monsanto?
Oui, c'est vrai que c'est la deuxième fois en quelques mois que la justice américaine conclut que ce désherbant Roundup a causé un cancer, que Monsanto est coupable finalement de n'avoir rien fait pour prévenir de possibles dangers. Bonjour Frédéric Marty.
Bonjour.
80 millions d'euros, de dollars, c'est l'amende donc que devra verser Monsanto. Ça, c'est le verdict de la semaine dernière. Au mois d'août, on se souvient que Monsanto avait été condamné à verser pas loin de 300 millions de dollars à un jardinier malade, lui aussi, d'un cancer. Vous êtes économiste au CNRS, Frédéric Marty. Toutes ces sanctions, finalement, c'est un coup dur financier pour Monsanto.
Tout à fait. C'est-à-dire il y a une accumulation d'actions en justice, hein, plusieurs milliers de procédures ouvertes, environ 760 cas pendant devant les juridictions américaines, et de premières condamnations qui arrivent. Et donc il y a pour Bayer, hein, qui a racheté Monsanto assez récemment, un risque. Hein, c'est un risque d'effet de boule de neige, c'est-à-dire des actions en justice suscitent d'autres actions en justice et des procès perdus peuvent affaiblir la position de la société dans les procès à venir. Et donc il est très important, j'allais dire pour la firme, de se défendre coûte que coûte dans ces procès, mais surtout d'apporter une double preuve. Une preuve, je dirais tout d'abord, de non-toxicité du produit, et une preuve que l'entreprise a mis en œuvre toutes les précautions nécessaires pour prévenir les dommages. Donc il y a un débat qui est un débat régulatoire et de santé publique d'un côté, et après, pour Bayer, il y a une question qui est une question financière. Bayer a racheté Monsanto pour 63 milliards de dollars, et Bayer a déjà perdu 45% de sa valeur en bourse depuis la fusion.
Et depuis le mois de juin.
Alors ça, depuis le mois de juin, c'est bien ça. Donc, d'une certaine façon, ces risques financiers étaient connus par Bayer, hein, c'est-à-dire les procès liés au Roundup étaient déjà en cours. Donc, en grande partie, Bayer a dû provisionner ces risques juridiques au point de vue comptable, ne serait-ce. Mais il faut gérer un risque financier, notamment avec des fonds activistes qui pourraient remettre en cause la stratégie de Bayer. mais aussi et surtout un risque réputationnel.
Bien sûr.
La difficulté, c'est que l'image de Monsanto rejaillit sur celle de Bayer.
Ouais, enfin, l'image de Monsanto est déjà largement écornée à travers le monde. On sait que ce pesticide Roundup est controversé, même si en Europe, en France, il est critiqué, mais il continue encore à être utilisé. Frédéric Marty, merci de nous avoir éclairé justement sur les conséquences économiques pour le groupe Bayer après ces deux procès. On aura l'occasion de revenir sur ce sujet. On avait d'autres questions sous le coude, on y répondra évidemment prochainement. Bonne journée Henri, bonne journée à Pointe-Noire. Alseini, bonjour.
Bonjour Juan, bonjour à toutes et à tous.
Vous avez des questions sur le Japon?
Oui.
Eh bien, on vous écoute.
Au Japon, la prochaine ère impériale s'appellera Reiwa. Elle débutera le 1er mai 2019. Pourquoi ce nouveau nom et que signifie-t-il?
Alors, pourquoi ce nouveau nom? C'est vrai. Alors, on va essayer de vous expliquer. C'est un peu compliqué comme ça, de prime abord. On vous entendait parler d'ère impériale. Guibourg de Lamotte, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maîtresse de conférence à l'Institut National des Langues et Civilisations Orientales. Vous êtes spécialiste du Japon. Avant de répondre à la question de notre auditeur, faut quand même expliquer aux auditeurs que les Japonais fonctionnent finalement avec deux calendriers. L'un qui est traditionnel avec ce système d'ère impériale et l'autre qui nous est familier puisqu'il s'agit du calendrier grégorien.
C'est ça, en effet. Effectivement, les Japonais ont un système qui leur est propre.
Allô, allô, Guibourg de Lamotte. Ah, on vous entend pas du tout le même. On vous entend mal. Êtes-vous avec une oreillette?
Est-ce que vous m'entendez là?
Je vous entends parfaitement bien maintenant.
Ok, très bien. Alors on fait comme ça, pardon. Donc, il y a en effet au Japon un système d'air qui existe depuis toujours, mais bon, qui marque le changement d'empereur. Donc à chaque nouvel empereur, eh bien, les Japonais changent d'air. Donc l'ère de l'empereur, eh bien, il faut lui trouver un nom et qui reflète ce qu'on attend de l'époque nouvelle qui s'ouvre. Et donc les Japonais fonctionnent en effet avec ce double système, le système d'air qui est donc traditionnel, et puis le calendrier grégorien qui permet en fait, qui a l'avantage d'abord d'être universel, et puis de permettre une approche continue du temps. Oui. La discontinuité avec le système grégorien, donc on peut se référer au passé en ayant un point de repère qui est stable finalement.
Oui. Oui, alors par exemple, pour être concret, Guibourg de Lamotte, pour les Japonais, l'année 2019, enfin nous on dirait, voilà, mon fils est né en 2019, les Japonais diraient comment alors?
Eh bien, là pour le moment, ils continuent à parler de l'ère Heisei. Qui est l'ère actuelle, et puis à partir de l'année prochaine, ils parleront de l'ère Reiwa, et diront donc que mon fils est né en l'an 1 de l'ère Reiwa.
Voilà, en l'an 1 de l'ère Reiwa. Reiwa, c'est donc ce nom que tous les Japonais attendaient, lundi, d'ailleurs, lundi aux alentours de, en fin de matinée, le pays s'est arrêté de vivre pour découvrir donc ce nouveau nom. Que signifie-t-il?
Alors, il signifie, c'est une référence à un texte classique du 8e siècle. Et il signifie l'avènement d'une période, qui est le printemps, donc une période qui est porteuse de toutes sortes de choses positives, d'une renaissance, d'une bonne fortune. En fait, le texte fait référence à une fraîcheur dans l'air, enfin un mois qui apporte le printemps, et à la paix, par ailleurs, à l'harmonie. Voilà. Donc, c'est l'idée, en fait, d'une période d'harmonie prospère, si vous voulez.
Ouais. Et il faut dire que le choix du nom a donné lieu à une très longue réflexion. Il y a tout un comité qui a été mis en place. Tout ça est tenu secret jusqu'à lundi dernier, donc jusqu'à la révélation du nom. En tout cas, merci beaucoup, Guibourg de Lamotte. J'espère que ça a été clair pour tous nos auditeurs qui ont découvert donc ce calendrier japonais, ce fonctionnement temporel avec des ères impériales. Bonne journée Alseini, merci beaucoup à vous. Vous restez avec nous, évidemment, à l'écoute d'RFI. Dans un instant, on va retrouver l'ensemble du service Afrique de RFI pour la dernière édition d'Afrique Matin, et on reviendra tout de suite après pour parler des élections législatives du 28 avril au Bénin, avec ce scénario inédit, l'opposition exclue du scrutin. C'est une première depuis 1990, depuis l'avènement de la démocratie 30. 33 9 693 693 70. À tout de suite.
Retrouvez Appel sur l'actualité après le journal avec Orange Money, leader du transfert d'argent.